Alléluia. On peut prier ensemble ? Seigneur, nous sommes heureux de nous remettre entre tes mains, de nous mettre sous ta grâce. Je te loue, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Je te loue parce que ton regard s'abaisse sur nous. Et Seigneur, ta voix s'adresse à nos cœurs et tu veux toucher nos cœurs, tu veux parler à chacun de nous. Nous dire ton affection, ta tendresse, ta joie aussi, ta joie du succès, ta joie de savoir que vous allez réussir tous les deux. Je te loue, Seigneur, et je t'adore. Je te prie vraiment que tu parles au travers de ma bouche ce matin au nom de Jésus. Amen. Juste avant de commencer, hier soir, je relisais juste un passage de Salomon. Quand il inaugure le temple, il a fait des holocaustes. Vous vous rappelez combien d'animaux il a tué ? Combien ? 70 ? Combien ? 1000 taureaux. 22 000 bœufs. 120 000 brebis. 120 000 brebis. Werner, à ton avis, dans une brebis, il y a combien de litres de sang ? Est-ce qu'on peut dire une dizaine de litres, au moins ? Sachant que dans un corps humain, il y a 5 litres. Je pense que je ne suis pas au moins 10 litres dans une brebis. Ça fait 120 000 fois 10 litres. Il y avait 1 200 000 litres de sang. 1 200 000 litres de sang pour l'inauguration du temple. Pour l'inauguration du temple. 1 200 000 litres des brebis. Le taureau, il y a combien de litres ? Mettons 20 litres au moins. 20, même plus, 30. 30 litres. 30, si on fait jusqu'à 20 000, on arrive à quelque chose comme 600 000 litres encore. On arrive à presque 2 millions de litres de sang qui ont coulé pour l'inauguration d'un temple. 2 millions de litres, je ne sais même pas où ils ont pu aller. Je ne sais pas où ils ont pu couler ces 2 millions de litres. Qu'est-ce que ça nous parle ? Ça nous parle qu'il fallait un sang, énormément de sang pour couvrir. Et sans compter tous les holocaustes qu'il y avait tout le temps, je vous avais une fois parlé de ça, tous les millions de litres qui ont dû couler pour le pardon des péchés. Il y a des millions de litres de sang. Vous rappelez, vous imaginez ces 120 000 brebis, il fallait les élever, les parquer. Ils attendaient les 120 000 dans un coin, je ne sais pas où, d'être tués, d'être mis à mort. Et moi, ce sang me parle du sang d'un agneau innocent. Il a fallu qu'un sang innocent coule, et ce sang, ça vaut des millions de litres. Des millions de litres. Le sang de l'agneau vaut des millions de litres. Et largement au-delà. À partir du moment où ce sang a coulé, il n'y avait plus besoin d'autre sang. On parlait de l'Holocauste ce matin, lui qui en parlait. Il a suffi d'un Holocauste, cet Holocauste saint. Il a couvert des millions de litres de sang. Quand on en a besoin, on n'a pas besoin de s'asperger de quelques gouttes de sang. Je viens me baigner dans du sang. Je viens me laver, me tremper dans le sang de l'agneau innocent. Ces 22 000 bœufs me parlaient. Je me disais, pourquoi 22 ? Je n'ai pas de réponse particulière, mais j'ai pensé au psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? T'éloignes-tu sans me secourir et sans écouter mes plaintes ? C'est le Sauveur qui crie. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai pas de repos. Pourtant, tu es le Saint et tu sièges au milieu des louanges, Israël. Moi, je suis un ver et non un homme. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel va te sauver puisqu'il t'aime. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. De nombreux taureaux sont autour de moi. J'avais l'impression de dire comme le Sauveur, s'il était au milieu de ces 22 000 taureaux qui allaient tuer, et il était là au milieu d'eux. Et le Seigneur dit, j'ai donné ma vie, il n'y a plus besoin des taureaux aujourd'hui. Les 120 000, ça me parlait ce 120, des 120 disciples. Il fallait qu'il y ait 120 000 pour couvrir la naissance de quelque chose. L'inauguration du temple, ce temple qui allait être bâti, qui allait annoncer la gloire de Dieu pour les nations. Il y a eu 120 000 brebis de tués. Et ces 120 000 nous parlent de ce corps de Christ. Ce corps de Christ qui est né en même temps que sa mort et sa résurrection. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on se rappelle ce sang qui a coulé. Amen. Je reviens à mon thème de la dernière fois. Vous vous rappelez ce qu'on a parlé ? C'était quoi ? Les empires. Les empires et les royaumes. Je vous avais dit qu'il y avait un empire qui avait été choisi particulièrement, c'était celui d'Nabuchodonosor. Dieu lui a parlé à cet empereur. Dieu a voulu se révéler à lui, lui faire connaître qui il était. Et vous savez qui c'était cet empereur ? C'était celui qui avait rayé Israël de la carte. C'est celui qui avait détruit ce fameux temple. C'est celui qui avait déporté Israël. Tous les habitants d'Israël, ils avaient déporté à Babylone. Et Dieu lui parle. Dieu ne le casse pas. Dieu ne le détruit pas. Il ne dit pas « qu'est-ce que tu as fait ?» Il lui montre qui il est. Il lui montre qu'il est Dieu. Il lui montre qu'il est le Dieu réel et vrai. Celui qui ne change pas. Celui qui règne sur les nations, celui qui règne sur les empires, celui qui règne sur les rois. On peut prendre Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette et lut dans le ciel de fortes voix qui disaient, vous vous rappelez ce que j'avais dit? J'avais dit que de tous ces empires, c'était des empires qui étaient créés pour s'opposer à un empire qui devait arriver, un empire qui devait remplir le monde entier. Vous savez, vous voyez qu'il est là, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le royaume du monde, l'empire du monde. C'est le royaume qui couvre toutes les nations, qui couvre tous les peuples de la terre. Il a été remis au Seigneur et à son Christ. Il fallait qu'il y ait des empires qui soient bâtis. Il fallait qu'il y ait des royaumes qui se lèvent. Et pourquoi ils se lèvent? Parce qu'ils veulent s'opposer à l'empire du Fils de Dieu. Ils veulent s'opposer au royaume du Fils de Dieu. Ce royaume est prévu depuis le début du monde, mais l'ennemi le sait. L'ennemi sait très bien qu'il y a un empire qui va remplir la terre. Et il bâtit des empires les uns après les autres dans l'espoir d'arriver à un empire final assez grand, assez puissant, avec assez de forces occultes, assez de puissance économique, assez de puissance militaire pour s'opposer à la venue du royaume de Dieu. Mais on sait très bien que ce royaume ne pourra pas subsister. Quand le royaume de Dieu, de Christ viendra, il va écraser ces empires, il va les détruire et il va s'établir. Daniel 7, 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Tous les gouvernements de la terre sont appelés à passer sous le gouvernement céleste. Et le gouvernement céleste, ce sera Christ avec tous les siens, tous ceux qui lui appartiennent. Apocalypse 5, 9, 10, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux, car tu t'es immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Rappelez ce sang qui a coulé des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront dans les cieux. Ils vont régner. Ils vont régner où? Sur la terre. Vous savez, on nous a beaucoup parlé d'un royaume des cieux. Et quand on entend royaume des cieux, on s'est dit, on va être dans un royaume qui sera dans le ciel. Et Dieu nous dit de plus en plus, mon royaume est sur la terre. Ce n'est pas un royaume des cieux parce qu'il est dans les cieux. C'est un royaume des cieux parce qu'il vient des cieux. Vous connaissez la Jérusalem céleste? La Jérusalem céleste, elle est fabriquée dans les cieux, mais elle descend sur la terre. Le royaume des cieux, il est pensé dans les cieux, il est conçu dans les cieux, mais il descend sur la terre. Il descend au travers d'hommes et de femmes, et au travers d'un roi. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, on peut peut-être le prendre. Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis le rejeton et la postérité de David. C'est quelque part le testament de Jésus, si j'ose dire. Dans le Nouveau Testament, ce sont les toutes dernières paroles de Jésus avant de monter au ciel. Et voilà ce qu'il dit. Je suis le rejeton et la postérité de David. Savoir avec quoi? Pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi les dernières paroles de Jésus qui sont si importantes, qui doivent marquer quand même l'histoire de l'Église, il trouve que c'est utile de dire je suis le rejeton et la postérité de David. Vous savez ce que c'était ce rejeton? Ça nous parlait de quoi ça nous parlait? Vous savez ce qu'a fait David? Il a établi le tabernacle, mais avant, qu'est-ce qu'il a fait David? Quelle était l'œuvre de David? Il a ramené l'arche, il a vaincu ses ennemis, il a bâti le royaume, il a unifié le royaume. C'est à partir de David qu'on commence à vraiment parler du royaume d'Israël. David a été celui qui a établi un royaume. Il est celui qui a conquis Jérusalem. Il est celui qui a fait de Jérusalem la capitale. Il était le roi de Juda pendant un temps, Saül le roi d'Israël. Il y a eu de la guerre entre les deux. Et à un moment donné, quand David a reçu enfin toute la position royale qui était la sienne depuis longtemps, mais qui n'était pas visible, il a pris Jérusalem, il en a fait la capitale, et il a fait du royaume d'Israël un royaume. Et il a commencé à conquérir des territoires qui étaient autour. À tel point que j'ai trouvé que dans le Larousse, on appelle David un bâtisseur d'empire. Un bâtisseur d'empire. Il a bâti un royaume, il a bâti un petit empire à la mesure que Dieu lui demandait, mais c'est celui qui a établi Israël comme un royaume puissant. Un royaume avec lequel il fallait que les autres comptent. Un empire qui existait face aux autres empires. On ne traitait pas Israël comme du rien. Israël avait de la valeur et de l'importance. David a été un roi bâtisseur. Bâtisseur de royaume. L'unité nationale, elle était divisée avant. Il en a fait une vraie force. Il a fait de la royauté quelque chose de fort. Et il a reçu des promesses. Il a reçu la promesse qu'à partir de lui, il y aurait une descendance royale. Il y aurait toujours des fils sur le trône. Et David, qu'est-ce que c'était comme type d'homme? Un adorateur. C'était quelqu'un qui aimait louer. Il aimait jouer de la musique et de la harpe. À tel point que quand Saül a eu besoin de quelqu'un pour aider à être libéré de l'esprit méchant qui l'attaquait, on lui a dit, on a trouvé un homme quelque part qui joue de la harpe tellement bien que je suis sûr que ça va être du soin pour ton âme. C'était un des meilleurs joueurs, un des meilleurs musiciens du royaume, pour que ce soit lui qu'on choisisse. Et alors vous pensez qu'il avait quel âge quand on l'a choisi? 13 ans? Vous savez ce que dit le gars qui en a parlé de lui à Saül? Il a dit, j'ai vu un homme fort et vaillant, un guerrier qui parle bien et de belles figures. Un homme fort et vaillant. Et Saül avait l'habitude, il était connu comme étant celui qui rassemblait. Dès qu'il voyait un homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Et les gars qui étaient autour de lui, c'était des balèzes. Et si un balèze parle d'un homme fort et vaillant, c'est que l'homme fort et vaillant dont il parle, c'est un balèze. Il avait au moins une trentaine d'années, on peut imaginer 26-30 ans. C'était un grand gaillard, un costaud des costauds. C'est quelqu'un qui en imposait. C'était un homme de valeur avec une belle figure, qui savait parler et qui aimait la louange, qui aimait son Dieu, qui adorait son Dieu. C'était un homme qui n'avait pas peur d'aller se battre contre un ours et contre un lion. C'était un homme qui aimait prendre la harpe, qui aimait adorer Dieu. Mais quand il fallait se battre, il était le premier. Il n'avait peur de rien. C'était pas un petit gars, c'était un grand guerrier. Et ce grand guerrier, quand il a dû se battre contre Goliath, il a compris une chose. Il ne devait pas y aller avec sa force, il ne devait pas y aller avec ses capacités, avec ses compétences. Il ne pouvait pas y aller avec les armes que Saül lui proposait. Saül, c'était encore un costaud plus grand que lui, hein. C'est pour ça que ses armes étaient trop grandes. Parce que Saül, c'était vraiment un summum. Pas un sumo, un summum. Mais David avait su qu'il ne pouvait pas y aller avec ses armes. Il devait y aller par la foi. Il ne pouvait pas y aller avec sa force propre. Malgré toute sa force, malgré son intelligence et malgré l'amour de Dieu qu'il avait, il ne pouvait pas y aller la fleur au fusil. Il fallait qu'il y aille par la foi. Il fallait qu'il aille au nom de Dieu. Et c'est comme ça que David a vécu sa vie. Il a dit, il a été choisi parce que c'était celui qui aimait Dieu. Il a été choisi parce que celui dont le cœur était attaché à Dieu. Saül a été choisi parce que c'était un homme beau. Il dépassait tous les autres de la tête. Il était hyper costaud. Il n'avait pas peur d'avoir des balèzes autour de lui parce que c'était un hyper balèze. Mais ce gaillard, il y a une chose qu'il n'avait pas comprise. C'était qu'il fallait de l'attachement à Dieu. Il fallait aimer Dieu de tout son cœur. Il fallait se battre pour la cause de Dieu. Et Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est bâti pour sa propre cause. Il a fait comme les rois de ce monde. Il s'est dit, je suis arrivé maintenant, avant j'étais rien, maintenant je suis quelqu'un. Avant j'étais un petit, maintenant je suis quelqu'un qu'il faut compter. Je suis arrivé au haut de la hiérarchie. Et ce gars, il a fait tout faux. Il a voulu faire le rôle du sacrificateur alors qu'il n'en était pas un. Il a pas obéi à l'ordre que Dieu lui avait donné, alors qu'on ne désobéit pas à Dieu comme ça. Il a fait plein de fautes. Il a aligné les erreurs les unes après les autres. Il n'avait pas de crainte de Dieu. Vous savez comment il appelait l'Éternel ? Il disait « L'Éternel, ton Dieu à Samuel ». Le Dieu de Samuel n'est jamais devenu le Dieu de Saül. Et quand il a parlé du peuple de Dieu, il a dit « Mon peuple ». C'était devenu son truc à lui. Saül n'avait rien compris. Il n'avait pas compris que Dieu est celui qui établit les rois et celui qui défait les rois. Et quand Saül lui a dit « Dieu t'enlève la royauté », Saül ne s'occupait même pas de ce que Dieu ressentait. Il n'était même pas touché dans son cœur que Dieu pouvait être triste et déçu à son sujet, qu'il y avait de la blessure dans le cœur de Dieu d'avoir aimé un homme, de l'avoir établi, et que cet homme lui fait défaut. Saül n'a rien ressenti. Tout ce qu'il n'était pas content, c'était qu'on ose lui dire « Maintenant, ce sera plus toi le roi ». Il a dit « Non, 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 oh, tu restes là avec moi et tu me glorifies aux yeux des autres et de mon peuple, parce que sinon ils vont se détourner de moi ». Il y avait de la crainte des hommes chez Saül, de la crainte de ses ennemis. David n'avait pas ça. Il n'y avait pas de crainte de l'homme chez David. Il n'y avait pas de crainte des ennemis. Il aimait son Dieu et il se battait pour Dieu. Il venait contre les ennemis au nom de Dieu et il savait que c'est Dieu qui combattait ses ennemis. Quelle que soit sa force à lui, il aurait été un gringalet, ça n'aurait rien changé. Il aurait pu être l'homme le plus faible de la situation, ça ne changeait rien à l'histoire. Dieu peut choisir un fort comme il peut choisir un faible. Qu'est-ce qui comptait ? C'était que le cœur de David était brûlant pour Dieu. Il ne pouvait pas supporter d'être loin de Dieu. Et c'est ça qui a fait que Dieu a aimé David. Et il a appelé le chantre bien-aimé d'Israël. Et Dieu a dit, du coup, il a fait une promesse à David. « David, je te bâtis une maison. Je te donne une descendance, une dynastie royale. Il y aura toujours un descendant sur le trône. » Mais en particulier, psaume 132, 11, « L'Éternel a juré la vérité à David. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. » Et c'est ce que les Israélites ont toujours considéré comme la promesse du Messie. « Il y aura un jour sur ton trône, à toi, à Jérusalem, à Israël, un de tes descendants qui s'appellera le fils de David. » Quand on dit fils de David, ça veut dire l'héritier de la promesse qui est appelé à régner et à être le roi qu'on a toujours attendu dans la lignée davidique. Fils de David, ça veut dire pas seulement un des fils, parce que quelque part de père en fils, il y a eu des enfants, puis un jour, paf, il y a quelqu'un qui naît, puis c'est le fils de David. Fils de David, ça veut dire, on attend depuis des siècles un roi qui doit naître dans la lignée de David et qui régnera à Jérusalem pour toujours. C'est ça, fils de David. Jérémie 23, 5, 6, voici les jours viennent où je susciterai à David un germe. Il régnera en roi, il prospérera, il pratiquera la justice et l'équité. En son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Donc ce fils de David, non seulement il appelait à régner, mais il va amener la paix dans Israël. Israël va devenir de nouveau le royaume prospère qu'il était au temps de David. Quand David est mort, Salomon a fait d'Israël un royaume encore plus riche et plus respecté, mais il ne l'a pas agrandi. Le royaume a arrêté sa croissance. Et par ailleurs, il a amené des choses mauvaises dans le royaume qui ont fait qu'à sa mort, le royaume a été divisé et séparé. Le royaume a commencé à se perdre, à se diluer, à se rétrécir. Et à terme, un jour, Israël a été détruit et il n'a plus existé. Et pendant tout ces temps, on attendait non seulement un roi, un fils de David, mais un roi qui rétablirait le royaume d'Israël dans sa gloire et dans sa grandeur. Et une grandeur qui ne serait plus mise à mal. Ésaïe 11, 1 à 10. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'est le père de David. Ça veut dire que ce sera quelqu'un qui sera de la descendance de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. Le voilà, le rejeton d'Apocalypse. Il est là, le rejeton. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, etc. Vous connaissez. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il frappera la terre de sa parole. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Donc j'ai été rapidement dans Ésaïe 11, 1 à 10, si vous voudrez le lire à la maison. c'est la promesse non seulement que Israël soit rebâti, mais quand Israël sera redevenu le royaume qu'il doit être, la terre sera dans la paix. Les nations seront heureuses. Elles seront réunies sous la bannière du roi des rois. Elles seront gouvernées par un prince de justice. Et la gloire sera la demeure du roi. Et la terre sera remplie de la gloire. Voilà les trois promesses. Un fils de David, un roi. Il va rétablir le royaume d'Israël. Et en venant régner à Israël, les nations seront bénies et gouvernées par lui. Voilà la promesse de l'Empire. L'Empire du monde qui doit être remis au Seigneur. Amen. Et ça, c'est ce que Israël attendait. C'est ce que chaque Israélite, depuis son enfance jusqu'à sa majorité, jusqu'à sa vieillesse, il attendait. Est-ce que c'est aujourd'hui que le roi va paraître? Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il va venir? Ils voyaient Israël d'abord écrasé, et puis finalement ils ont réussi à rebâtir un petit Israël avec un petit temple. Mais il était dominé par les Grecs, foulé aux pieds. Puis les Romains sont venus écraser. Et le Seigneur les avait déjà écrit avant. Si les Grecs savaient qu'ils étaient en train d'accomplir, si Alexandre savait qu'il était en train d'accomplir quelque chose qui était écrit dans Daniel depuis des siècles, ça lui aurait fait drôle. Les Romains, c'est quand ils ont attaqué Jérusalem, ils disaient, mais tout était déjà écrit là dans Daniel, allez voir. Ça leur aurait fait drôle. Ils ont fait ce que Dieu savait depuis toujours et ce que Dieu avait déjà dit. Ils ne sont que des acteurs de quelque chose que Dieu connaît depuis longtemps. Et quand Israël était couvert par le peuple romain et dominé, il se disait, mais quand il va venir? Quand le roi va venir? Normalement, ça devrait être la période. Et il y a des rabbins qui ont écrit, qui ont calculé que normalement, le fils de David aurait dû paraître vers l'an 30, vers Jésus-Christ. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne l'ont pas vu. Ils l'attendaient. Et quand ils faisaient les calculs, ils disaient, mais c'est à peu près cette période. Et ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas compris. Ainsi, quand Jésus se déclare le rejeton de la postérité de David, il annonce fortement son rôle messianique. Il dit qu'il va venir défaire ses ennemis, tous ceux qui se seront ligués contre lui. Il va délivrer Israël en devenir le roi. Il va prendre le gouvernement des nations et il va mettre en place les membres de son corps pour gouverner avec lui. Les saints vont hériter du royaume. Voilà ce que Dieu dit, quand Jésus dit, je suis le rejeton, la postérité de David, je suis le fameux fils de David. Et il y en avait qui l'avaient déjà vu, qu'il était le fils de David. Vous vous rappelez ça? Vous vous rappelez que tout ce que disaient les pauvres, les aveugles, quand Jésus marchait dans les rues d'Israël? Fils de David, aie pitié de nous. Fils de David, sauve-nous. Pourquoi il disait fils de David? Pourquoi disait-il fils de David, ces gars-là? Parce que, malgré qu'ils étaient sourds, malgré qu'ils étaient aveugles, malgré qu'ils étaient malades, ils avaient vu dans Jésus le Fils qui était attendu et qui devait venir régner. Quand ils disent, fils de David, on reconnaît que tu es le Messie qui devait venir, que tu es le roi. On te voit et on te reconnaît, on a vu tes miracles. On reconnaît que tu es fils de Dieu et que tu es venu pour avoir le règne. Matthieu 12, 23, vous savez ce que la foule dit à un moment donné quand elle entend Jésus, elle entend les paroles pleines de grâce et d'autorité qu'il dit. Eh mais est-ce que ce ne serait pas lui, le fils de David? Est-ce que ce ne serait pas là, celui qu'on attendait? Est-ce que ce n'est pas celui qui devait venir? Eh les gars, regardez, on dirait bien que c'est lui le fils de David, il est là! Les pharisiens ne voulaient pas le reconnaître. Plein de gens disaient non, c'est pas possible. Pourquoi ils disaient c'est pas possible? Pourquoi ne pouvaient pas-ils, eux, reconnaître le fils de David? Pourquoi? À votre avis, pourquoi ne le reconnaissait-il pas? C'est pas seulement parce que quelque part ils n'étaient pas juste dans leur cœur. C'était une mauvaise conception de ce que signifiait le fils de David. C'était une conception juste, mais juste pas encore dans le bon temps. Ils attendaient un fils de David qui allait amener le royaume d'Israël. Ils l'attendaient. Mais alors quand les pauvres ils disaient fils de David, mais les pharisiens leur disaient, mais les pauvres ignorants, vous avez rien compris. Le fils de David, il vient pas simplement faire des miracles, il va pas juste annoncer quelques de belles paroles. Il va venir pour restaurer la royauté d'Israël dans sa grandeur première. Faire ce que David a fait. Quand Jésus va venir, quand le fils de Dieu viendra, il faudra qu'il boute les Romains d'ici. Il faudra qu'il n'y ait plus d'étrangers dans Jérusalem. Il faudra que le royaume d'Israël retrouve toute sa grandeur et sa gloire. Et c'est pour ça qu'en partie, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Ils ne pouvaient pas voir en Jésus le roi tant attendu. Luc 19, 11. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Quand Jésus arrive à Jérusalem, on s'est dit, c'est lui, il fait tous les miracles qu'il faut. Il a l'onction du Seigneur, on le reconnaît, Isaïe 11. On reconnaît le rejeton, il a l'onction de David. Il a l'onction du Saint-Esprit qui repose sur lui. Il a les paroles de sagesse, paroles de connaissance, la puissance des miracles. C'est pas possible autrement, ça doit être lui, le fameux roi qu'on attend depuis des siècles. On croyait à l'instant même que le royaume de Dieu allait s'établir. Patatras, c'était pas ça. Sauf ce que Jésus dit, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale. Jésus leur dit, il y a un homme de haute naissance, c'est moi l'homme de haute naissance. Je suis parti, je vais me faire investir de l'autorité royale, mais un jour je reviens. Et je distribuerai le gouvernement de mes villes par rapport à ceux qui auront honoré le talent que je leur ai donné, qui en auront honoré mon nom et qui m'auront servi comme David m'a servi. À celui-là, tiens, tu reçois 10 villes. À l'autre, tiens, il y a 5 villes pour toi. Venez là, chacun. J'ai reçu l'autorité royale de mon père et quand je reviens, je distribue. Mais le problème, c'est que quand il venait à Jérusalem, ce n'était pas le temps. C'était le temps où il devait donner encore sa vie. Matthieu 21, 8, 10, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et ils criaient, « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Vous savez ce que c'était ce chant ? C'était le chant qui était prévu pour le fils de David quand il viendrait dans son règne. C'était le chant, à la fête de la Pâque, on chantait ce chant, et à la fête des tabernacles. La fête de la Pâque, ça nous parle du fait que Jésus, qui a donné sa vie. Le chant était chanté au fils de David qui donne sa vie. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est le fils de David, celui qui vient pour la royauté. Mais c'est un roi qui d'abord doit mourir. Et à la fête des tabernacles, la fête des tabernacles nous parlait d'enfin le royaume de Dieu qui rentre dans sa plénitude. Et à cette fête des tabernacles, on chantait aussi ce chant. Et la foule, elle l'a chanté pour le fils de David. Vous vous rendez compte, quand Jésus est rentré sur un âne, c'était la promesse de l'âne qui viendrait, que Jésus, le fils de David viendrait pour régner sur un ânon. Ils l'ont chanté. Ils ont reconnu le fils de David qui rentre pour régner. Ils ne l'ont pas encore vu, mais ce qu'ils attendaient, ils ont commencé à le voir. Quand nous, on chante ce chant, Hosanna, on doit partir en pensant à ceux qui l'ont vu et pensant au roi qui vient. Et vous savez que peut-être c'est bien pour ça que les disciples ils étaient avec Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Vous savez qu'une semaine avant, Jésus avait parlé du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu vient. Et quand ils voient la transfiguration, ils disent, ça y est, mais c'est lui le roi. Il est transfiguré, il a toute la puissance, il va venir établir son royaume. Les disciples attendaient à ce moment-là aussi. Ils se disent, il va venir établir son royaume. Ils ont dit, plantons les tabernacles. Ça y est, c'est le temps du royaume de Dieu qui doit se faire en Israël. On plante les tabernacles pour s'installer. Et Jésus, tout de suite, ça s'est arrêté. Jésus a dit, non, c'est pas encore le temps. Alléluia. Actes 1, verset 4 à 8. On va le prendre ensemble. Comme il se trouve, vous savez ce que c'est acte 1, c'est Jésus qui va bientôt partir, il est avec ses disciples, c'est de nouveau un temps, c'est de nouveau, autant Apocalypse, c'est les dernières paroles de Jésus dans la parole avant qu'il revienne. Là, ce passage des actes, c'est les dernières paroles avec ses disciples avant qu'il monte au ciel. Regardez ce qu'il dit. Comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Jean baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisé du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Est-ce en ce temps ? Vous vous rendez compte ? Jésus vient de mourir. Il est ressuscité. Il va bientôt partir au ciel. Les disciples vont se retrouver tout seuls. Et ces gaillards, ils n'ont qu'une seule question à lui poser. Est-ce maintenant ? C'est quand tu auras envoyé ton esprit, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? Les disciples attendaient encore le royaume à ce moment-là. Est-ce que vous trouvez cette question intelligente ou pas ? Vous savez ce que la Thomson, elle dit ? Si vous regardez dans la liste des parallèles, elle met ça sous curiosité vaine. Elle estime que les disciples, en posant cette question, c'était de la vaine curiosité. J'ai même lu quelque part une question stupide. Ils sont bêtes, ces disciples. Jésus va partir. Il vient de mourir et de ressusciter. Il a montré sa gloire. Il va monter dans le ciel. Il va les établir comme apôtres. Il leur envoie l'esprit avec puissance. Ces gaillards-là, ils vont remplir le monde et ils demandent « Est-ce que tu vas établir le royaume d'Israël ?» Mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris, ces gars. C'est une question stupide. Et vous savez que c'est notre mentalité. On a été élevé avec ça. On a été enseigné avec ça. Que la question n'est pas du royaume d'Israël qui doit être établi. On n'en a rien à faire. Là, on a été élevé avec un royaume spirituel. Mais un royaume terrestre, qui en s'en occupe ? D'un royaume d'Israël, mais qui s'en occupe ? Et qu'est-ce que Jésus a dit ? Il n'a pas dit les disciples. Vous en êtes encore là, disciples de peu d'intelligence ? Jésus, quand il fallait le dire, il savait le dire. Mais là, il n'a pas dit ça. Hein. Il n'a pas dit que vous êtes encore peu d'intelligence, mais vous ne comprenez rien. Vous êtes vraiment lent à comprendre. Il a su le dire ça quand il a fallu. Mais là, il n'a rien dit. Il ne l'a pas dit. Il a dit, non, les gars, la question, sous-entendu, votre question est vraiment intelligente. C'est la bonne question. C'est celle qu'il fallait poser. Je suis fier de vous. Vous avez compris. Juste une chose. Ce n'est encore pas le temps. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Vous accomplissez votre destinée. Vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins de Jérusalem, toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Rentrez dans vos destinées, mes gaillards. Et votre message, annoncez le royaume de Dieu qui vient. Parce que vous avez tout compris, je viens rétablir le royaume d'Israël. Et quand le royaume d'Israël sera rétabli, mon royaume remplira la terre. Et les nations seront sous mon autorité. Et les gars, vous aurez le règne avec moi. Vous serez sur les trônes et vous jugerez les nations, les tribus d'Israël. Et vous allez juger les nations. Vous serez avec moi ce jour-là, comme Dieu a dit à Daniel. Marche jusqu'au bout de ton chemin. Et à la fin, tu te lèveras et tu seras juge. Et tu jugeras aussi. Ils ont le même appel. Nous avons ce même appel. Nous sommes appelés à nous poser la question, quand est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël, Seigneur Jésus ? Quand est-ce que tu viens pour régner et rétablir Israël dans sa gloire et sa grandeur, dans la justice, dans la sainteté, comme les témoins fidèles, comme ceux qui ont la loi et qui dispensent la loi pour les nations ? Je n'ai plus le verset, mais c'est dans la parole. C'est ça, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus est venu annoncer la nouvelle, la bonne nouvelle, l'évangile du royaume. Un évangile royaume terrestre, un royaume qui va s'établir sur la terre où Dieu va gouverner en toute sagesse et puissance, avec l'onction royale. C'est la bonne nouvelle du royaume qu'on est appelé à aller partager. Annoncez la bonne nouvelle du royaume. Vous êtes les fils du royaume. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tous les passages sur le royaume, relisez-les avec cette vision d'un empire mondial. L'ennemi veut bâtir son propre empire mondial. On parle de gouvernement mondial. Qu'est-ce que c'est que ce gouvernement mondial, sinon celui qui a été destiné à essayer de s'opposer au gouvernement mondial du fils de David ? Il faut qu'il arrive. Il faut qu'il existe. Mais il est appelé à juste servir de piédestal au gouvernement mondial de Christ. Alléluia, Jésus. Saül représentait tout ce que les nations essayent de faire, avoir un gouvernement, une puissance, une certaine force, mais centré sur eux-mêmes et se servent eux-mêmes. David est le roi selon le cœur de Dieu, qui gouverne pour le roi, qui sert le roi, qui adore le roi, qui aime le roi de tout son cœur. Et mais il y a un troisième gaillard dans l'histoire. Si vous me donnez encore juste quelques minutes, il faut que je vous le partage, pardonnez-moi. C'est Jonathan. Jonathan. Le fils de Saül. Jonathan a aimé David de tout son être, de tout son cœur. La parole de Dieu nous dit que l'âme de Jonathan s'attacha à celle de David. Jonathan a aimé David. Et il a été jusqu'à dire, je sais que l'autorité royale t'appartient, David. Je sais que tu es appelé à être le roi. Et je sais, alors que normalement c'était lui, hein, en tant que fils de Saül, il devait devenir roi, mais il avait déjà abdiqué, parce qu'il avait reconnu l'autorité royale investie sur David. Il est grand, Jonathan. C'était un homme fort, un homme courageux. Il a été tout seul se battre contre l'armée des Philistins. C'était un homme puissant. Il a aimé David et il a reconnu en lui un roi. Et vous savez ce qu'il a Jonathan a fait? Il a marqué dans 1 Samuel 20, le dernier verset, je ne me rappelle plus le numéro. Il était avec David et il retourne à la ville. Il retourne à la ville. 1 Samuel 23, David, Jonathan est avec David. Saül cherche à tuer David, à le supprimer par tous les moyens possibles. C'est ce que l'ennemi fait aujourd'hui. Hein. Supprimer tout ce qui vient de David, tout ce qui vient du fils de David, on n'en veut pas. Saül est dans sa destinée, il n'y a pas de doute. Mais il y a un Jonathan qui est là au milieu. Et ce Jonathan, il retourne dans la maison de Saül. Il ne reste pas avec David. Il y a une erreur dans le cœur de Jonathan. Jonathan n'a pas réussi à quitter la maison paternelle charnelle pour aller dans sa maison spirituelle. Il n'a pas réussi à quitter sa mentalité pour aller s'attacher au fils de David complètement. Il n'a pas réussi à tout couper. Et alors vous savez que David a chanté sur Jonathan. Pourquoi il a chanté sur Jonathan? Parce qu'il a pleuré sur une destinée perdue. Jonathan, il devait être à côté de David. Second ou pas second ou ailleurs, peu importe. Il devait être dans l'équipe de David. Et David, il a pleuré sur Jonathan parce qu'il y a une destinée ratée. Un homme qui aimait Dieu. Un homme qui a aimé David, qui a aimé son onction royale. Et cet homme-là, il n'a pas réussi à quitter une certaine mentalité. Et vous savez, dans Jonathan, il y a un appel qui est sur nous. Un appel à quitter notre héritage terrestre. Vous savez, ce verset qui dit « Nous avons hérité d'une vaine manière de vivre, hérité de nos pères. » Et cette vaine manière de vivre, cette vaine manière de penser, cette vaine manière de voir les choses, de concevoir, la vieille mentalité du royaume, tout ce qui était du cœur de Saül, Jonathan ne l'avait plus. Jonathan était pur dans son cœur. Mais il n'a pas fait la démarche totale de s'attacher à David au prix de tout perdre, ce qui était à lui, autrement. Il y a eu un manque d'attachement. Et on est dans une heure d'attachement. On est dans une heure d'attachement total et complet, au risque de tout perdre, au risque de perdre sa vie. Il faut que, quelque part, dans nos cœurs, il y ait une décision. Fils de David, je m'attache à toi et à ton royaume, totalement, complètement. Je ne cherche plus une place, je ne cherche plus un royaume terrestre, je ne cherche plus un ministère, je ne cherche pas une œuvre, je ne cherche pas à m'accomplir moi-même, à m'épanouir dans quelque chose, je veux me perdre en toi. Je veux que toi tu sois glorifié, je veux que toi tu sois élevé. C'est là l'appel de Jonathan qui est sur nous aujourd'hui. Parce que le royaume de Dieu vient. Et maintenant nous devons tout donner pour ce royaume. On ne peut plus retenir, on ne peut plus garder quoi que ce soit pour nos vies, parce que nous sommes en danger. Jonathan, il avait presque tout fait, il était allé presque jusqu'au bout. Il lui a manqué un dernier pas, et il a partagé la destinée de Saül, au lieu de partager la destinée de David. Saül, quand il est mort, son fils est mort avec lui, alors que Jonathan était appelé à vivre. C'est maintenant une clé pour nous aujourd'hui en tant qu'Église, en tant que personne, de nous attacher complètement et totalement, parce que sinon nous pouvons risquer d'être emportés. Alléluia Seigneur. Seigneur, nous voulons nous attacher totalement au royaume du Fils de Dieu. Nous voulons nous attacher à ton royaume, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons que tu es en train de venir, que tu es déjà prêt, que tu es à la porte, que tu as rassemblé ton armée des anges, que le gouvernement est prêt. Que le partage, que les héritages ont été commencés à être destinés à partager. Nous reconnaissons que tu es à la porte, que tu es en train de descendre et d'arriver. Nous reconnaissons, Seigneur Jésus, que nous sommes dans des temps de la fin. Nous sommes la dernière génération. Et nous reconnaissons que maintenant tu nous dis, est-ce que tu veux aller jusqu'au bout avec moi? Est-ce que tu t'attacheras complètement et totalement à moi? Et Seigneur, nous disons oui. Oui, nous voulons tout quitter. Dans nos cœurs, nous quittons tout. Seigneur, pour le royaume, pour ton royaume. Nous voulons aimer ton royaume. Nous voulons aimer le royaume de Dieu, nous voulons aimer le royaume d'Israël. Seigneur, nous voulons reconnaître qu'Israël est au cœur de tes projets et de tes plans. Alléluia, Jésus. Seigneur, nous voulons nous attacher totalement. Alléluia, Jésus. Kodelidividi.